Guy Scarpetta.
Aragon, qui a perdu ses illusions vis-à-vis de l'utopie soviétique qu'il avait souvent défendue, y compris dans la surenchère. Je me souviens de discussions, par exemple, avec un écrivain comme Dany Lokich, qui m'a toujours reproché l'admiration que je portais à Aragon, parce que, selon lui, quelqu'un qui avait fait l'éloge du GPU
et de Staline
était a priori discrédité. Et moi, j'essayais de montrer que l'esthétique d'Aragon était finalement plus proche de lui qu'il le croyait. Bon, il y a cette prise de distance, qui est aussi une prise de distance vis-à-vis de la conception étriquée du réalisme qu'il avait défendue et promue auparavant. Et qui s'est manifesté au début des années 60, à la fin des années 50 et au début des années 60, par cet étrange roman qu'est La Semaine Sainte, où il réinvente de fond en comble les règles du roman historique, et par cet très très étrange poème qui s'appelle Le Fou d'Elsa, qui est à mon avis une sorte d'objet non identifié dans l'évolution de la poésie française. Et puis arrive La Mise à Mort au printemps 65.
C'est un des plus beaux romans du XXe siècle.
Alors, moi je le pense, mais je crois aussi qu'il faut voir le choc que ça a pu produire dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, il y a le nouveau roman qui est en pleine évolution. Bon, c'est la grande époque créatrice de Claude Simon, par exemple. Mais c'est aussi l'époque où il y a, en particulier sous l'effet des ruses tactiques d'Alain Robbe-Grillet, une certaine dogmatisation du nouveau roman. C'est l'époque où Robbe-Grillet vient de publier le manifeste pour un nouveau roman qui tend un peu à dogmatiser et, je crois pouvoir dire, à stériliser les découvertes formelles du nouveau roman et en faire une sorte de théorie historiciste, comme ça. Je dirais une théorie qui crée des interdits plus qu'elle n'ouvre des voies. Pour les gens de ma génération à l'époque, j'avais 19 ans, le nouveau roman, on est perplexe. Et puis il y a les ennemis du nouveau roman, qui occupent on croit toujours que le nouveau roman tenait le haut du pavé, mais pas du tout. Le nouveau roman a toujours été minoritaire en France, c'est-à-dire les hussards, c'est-à-dire François Sagan, c'est-à-dire l'académisme, c'est-à-dire l'idée que toutes ces novations formelles sont étrangères à la pensée française et c'est en reconduisant la tradition stendhalienne comme s'il ne s'était rien passé depuis le début du 19e siècle que le roman a des chances d'exister. Bon, et la situation semble un peu bloquée. Entre d'un côté ce
néo... Entre deux académismes,
voilà,
en fait.
Entre deux académismes. Bon. Et à ce moment-là, ce vieil homme publie ce livre qui apparaît comme un coup de tonnerre. L'épicentre romanesque, à mon avis, est en train de se déplacer à l'époque. C'est le moment où quelque chose de très très fort est en train de naître en Amérique latine. Mais ça, à Paris, on ne le perçoit pas encore très bien. Il faudra attendre 68, il faudra attendre 100 ans de solitude pour qu'on commence à voir. Bon, Fuentes a déjà écrit quelques-uns de ses très grands livres, Borges aussi, Carpentier aussi, mais l'indécrottable chauvinisme français fait que tout ça semble un peu exotique. Bon, Aragon publie La Mise à Mort, et c'est un livre phare. Et à mon avis, c'est un livre phare, non seulement parce qu'il dépasse cette querelle dont je parlais, mais aussi parce que c'est un livre qui ouvre des voies qui, à mon sens, encore aujourd'hui, sont loin d'avoir été exploités. Alors, pourquoi? D'abord, c'est un livre qui a une formidable construction polyphonique, où différentes voix se mêlent, où différents registres se mêlent.
Avec d'ailleurs un modèle musical.
Avec un modèle musical, c'est du grand art de construction polyphonique, c'est du grand art de construction par contrepoint, avec en particulier l'insertion au cœur du roman de trois nouvelles semi-autonomes qui s'appellent les Contes de la Chemise Rouge, dont un qui est absolument magnifique, qui s'appelle Le Carnaval,
qui
est une évocation à l'occasion d'un récital de Richter interprétant Le Carnaval de Schumann, des années où Aragon était soldat dans l'armée française d'occupation en Allemagne et d'une histoire d'amour qui a mal tourné, enfin une histoire d'amour où on sent à la fois l'écho d'Apollinaire, l'écho de l'Apollinaire rénan.
Et où Aragon se moque de lui-même.
Et oui, se moque de lui-même. Et où il y a cet extraordinaire mélange, c'est lui, de sensibilité romantique et d'ironie. l'ironie. Ou alors, il y a ce second collage d'une nouvelle semi-autonome qui s'appelle Oedipe, et où là, il retrouve la grande veine ironique, insolente, fantaisiste, du surréalisme, purement et simplement, de ces grands textes surréalistes, de textes comme Le Libertinage, par exemple. Donc, c'est une construction polyphonique extrêmement subtile, extrêmement musicale, et qui n'a pas d'équivalent en France à l'époque. Bon. Il y a le grand thème, hein, le grand thème de la dualité, puisque au fond le personnage est dédoublé, c'est un jeu de miroir, il y a un homme qui est amoureux d'une femme, et il y a un autre homme qui est lui-même, mais qui est une sorte de double de lui-même qui aurait perdu son reflet dans les miroirs. Bon. C'est un peu la vieille histoire de Peter Schlemihl qui revient, la vieille légende allemande qui revient. C'est aussi l'allégorie, hein, de quelqu'un qui porte le masque, et qui finalement commence à saisir que le masque n'est pas ce qui cache la vérité, mais ce qui produit un effet de vérité. Et cette dualité, ce jeu de masque, ce jeu de on pourrait presque dire d'hypocrisie, qui a amené Aragon à sans cesse jouer des différentes facettes de ce qu'il était, il en fait un thème romanesque. Et c'est le grand thème des hommes doubles qui était déjà présent dans Aurélien, et qui là se radicalise, devient paroxystique, et amène un véritable brouillage de la voie narrative, qui est tout à fait passionnant. Il y a le mélange des styles, qui est quelque chose d'étonnant. La poésie est avalée par la prose. Non seulement parce qu'il y a des poèmes qui sont collés dans le roman, mais parce qu'il y a une rythmique poétique, des rimes internes, une densité métaphorique qui sont présentes pratiquement à chaque page. Et puis, il y a, dans ce mélange des styles, il faut souligner, je crois, ça c'est important, l'intégration du ton oral.
Hein, la voix.
La voix. On a fait, et on continue à faire, c'est un peu un lieu commun, dans l'histoire de la modernité romanesque, comme si le seul qui avait intégré le langage parlé à l'art du roman, non pas en copiant le langage parlé, mais en réécrivant le langage parlé, était Céline. Eh bien, moi je crois que si on lit La Mise à mort, avec ses interpellations du lecteur, qui font souvent penser à Diderot, avec ses exclamations, avec ses phrases interrompues, avec ses familiarités, avec ses manières de faire des digressions, de noyer le propos, puis de le reprendre, etc. Il y a toute une part de langage parlé qui est, je dirais, l'autre voix par rapport à Céline.
Il y a des gens qui disent maintenant que je parle une langue populaire. Je ne sais pas où ils ont pris ça.
Oui.
Le drôle de peuple que voilà, c'est que tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que j'écris le langage parlé. Alors, le langage parlé, c'est, croit-on, le langage du peuple.
Populaire, oui.
Je ne fais aucun effort pour parler autrement que je ne parle moi. Dans l'article de Jacques Brenner à Aux Écoutes, il a dit une chose que je sais exacte, mais que personne n'avait jamais dite. À savoir que ce que j'écris, l'emploi du langage parlé, chez moi, on ne peut pas dire qu'il vient de Céline, pour cette raison que Céline disait lui-même, à l'époque où il a écrit Le Voyage au bout de la nuit, qu'il avait appris à écrire en lisant Le Libertinage et Le Paysan de Paris. C'était de la part de Céline une expression outrée des choses, ça ne m'échappe pas. Mais enfin, ça prouve simplement une chose, c'est que l'emploi du langage parlé n'est pas chez moi une nouveauté.
Il y a, et ça c'est quelque chose moi, sur quoi j'ai réfléchi beaucoup après, et à partir d'autres références romanesques, il y a une formidable conception du roman comme l'art de l'intégration maximale des discours. Je dirais comme le seul métalangage possible. Il y a dans La Mise à mort des collages de poèmes de Shakespeare, de Lermontov, de Pouchkine ou d'Aragon lui-même. Il y a l'intégration d'une langue poétique, j'en ai parlé aussi, avec ses scansions, ses rimes internes, son lyrisme intégré à la narrativité. Il y a l'intégration d'articles de journaux. Il y a des collages d'actualités. Il y a un moment où le narrateur, par exemple, lit Pékin Information. Et il lit un article sur la grande campagne, on est à un an de l'éclatement de la révolution culturelle, sur la grande campagne lancée par Mao Tse-Tung, un se divise en deux. Et ça se termine ironiquement sur, mais finalement, cette histoire de un se divise en deux, ça me trouble. Comme si ce grand thème de la dialectique maoïste retrouvait cette allégorie de la déchirure et de la division et de la dialectique interne qu'Aragon pratiquait au même moment dans le roman. Il y a une intégration d'éléments biographiques. Il y a dans La Mise à mort des évocations du mouvement Dada, des évocations de ces années allemandes qui à l'époque n'était connu du grand public que par une chanson qu'avait faite Léo Ferré, d'un des poèmes du roman Inachevé, une des plus belles chansons d'ailleurs, et d'Aragon et de Léo Ferré, qui s'appelle « Ainsi que les hommes vivent », et qu'il développe. Hein, l'évocation de sa découverte de Rilke, du romantisme allemand, comme ça, et du dadaïsme naissant dans cette Rhénanie occupée. Il y a l'évocation, une évocation extraordinaire de l'enterrement de Gorki.
Mais oui.
Avec la présence de Gide, avec, avec Staline, bon, et où en même temps, laisse transparaître que même à l'époque, c'est-à-dire dans les années 30, dans la période la plus militante d'Aragon, il y avait quand même un regard de lucidité extrême sur ce qui était en train de se passer. C'est un passage tout à fait fabuleux. C'est-à-dire, il va très loin dans ce qu'il appelle au même moment le mentir vrai. C'est-à-dire l'intégration d'éléments authentiques ou certifiés dans une fiction qui les relativise et en même temps l'insertion de la fiction dans une logique qui arrive à lui faire produire des effets de vérité. Hein, pousser la logique de l'artifice jusqu'à produire un effet de vérité, ce qui est la grande règle, je dirais, du grand roman baroque, de Claude Simon à Carlos Fuentes ou de Philippe Roth à Kenzaburo Oe.
Et du grand théâtre, c'est un grand thème.
Et de Genet à la même époque. Eh bien, c'est là, dans ce roman, à travers cette intégration. Il y a l'intégration de l'essai. De ce que Kundera appellera plus tard l'essai spécifiquement romanesque. Il y a des passages de réflexion sur le réalisme, par exemple, sur la nécessité de dépasser les conceptions dogmatiques et étriquées du réalisme, sur Lewis Carroll. Et il y a même, c'est une chose qui m'a frappé, une méditation sur les rapports de Beethoven et de Bettina von Arnim, qui est bizarrement un thème qu'on va retrouver tout récemment dans un roman de Kundera qui s'appelle « L'immortalité », et une grande réflexion sur Hölderlin, qui est bizarrement un thème qu'on retrouvera tout récemment dans un grand roman de Solers qui s'appelle « Studio ». Comme s'il y avait en germe, dans ce roman d'Aragon, cette idée finalement de la nécessité de brouiller les limites entre l'essai et la fiction. Mais il y a, dans la mise à mort, ce qui contre-investit ce risque ou ce danger d'hétéroclite,
oui,
qui est une formidable construction par thème et variation. Il y a des thèmes récurrents qui prennent des incarnations différentes, il y a des motifs secondaires qui sont reliés d'une partie à l'autre. Bon, que dire? C'est quelqu'un qui a compris à trois quarts de siècle de distance que la grande leçon de Lautréamont pouvait passer dans l'art du roman. C'était déjà l'axe même de la défense de l'infini. Bon. Le livre est brûlé, et sur ses cendres renaît un autre art romanesque, qui est celui de la mise à mort. Il y a un dernier point que je voudrais souligner, parce qu'on n'échappe pas, quand on parle d'Aragon, à l'image convenue qui oppose le grand artiste, le grand virtuose du langage, et le dogmatique, le policier des lettres, le flic de la pensée, le stalinien insupportable.
Mais oui, on n'y échappe pas.
On n'y échappe pas. Moi, je dirais que quand on lit La mise à mort, on se rend compte d'une chose qui est terrible et qu'il faut commencer à penser, parce qu'à mon avis, on n'a pas commencé à le penser. C'est qu'au fond, ce roman est alimenté par une haine de soi. Et tout l'imaginaire fabuleux, à la fois déchirant, émouvant, drôle, qui s'y déploie, repose sur une haine de soi, mais qui est peut-être quasi pathologique. Bon. Et je crois profondément que cette haine de soi est aussi ce qu'a poussé Aragon vers le stalinisme. C'est-à-dire qu'il faudrait concevoir que, au fond, le grand génie romanesque d'Aragon s'alimente aux mêmes sources que ses pires errements politiques et idéologiques. Et peut-être qu'on pourrait dire la même chose
donc
de Céline.
Donc ce n'est pas une division, à votre avis?
Je crois qu'on pourrait dire la même chose de Céline. Je crois que la grande négativité des romans de Céline, cette espèce de vision totalement apocalyptique du monde et totalement négative du monde, cette espèce de négativité sans reste, est aussi ce qui a poussé Céline à écrire ses pamphlets antisémites. De même que l'espèce de perversion paroxystique de Genet, et ce qui l'a poussé à la fois à écrire des chefs-d'œuvre comme Le Balcon ou Les Nègres, et à avoir des positions de défense des terroristes totalement, je veux dire, inacceptables. totalement, même délirante à certains moments. Bon, je crois qu'il faut commencer à admettre, et commencer à étudier surtout, la façon dont, chez les écrivains, où on essaye de faire la distinction entre l'errance politique ou l'erreur politique, voire le crime politique ou la complicité avec le crime politique, et le génie ou le talent de l'autre côté, c'est plus compliqué que ça. Parce que souvent, ça s'alimente aux mêmes sources. Et je crois que la mise à mort en est un exemple parfait.
Ainsi Prague a perdu son âme et son poète. Lorsque j'irai tantôt, je ne l'y verrai pas. Et son cœur s'est brisé comme un verre qu'on jette à la fin du repas. Lorca, Mayakovsky, Desnos, Apollinaire, leurs ombres longuement parfument nos matins. Le ciel roule toujours les feux imaginaires de leurs astres éteints. Contre le chant majeur, la balle que peut-elle? Sauf contre le chanteur, que peuvent les fusils? La terre ne reprend que cette chair mortelle et non la poésie. Ce siècle est au-delà du minuit de son âge. Ces poètes n'ont plus besoin d'être achevés. Ils ont usé leur vie au danger des images et croient avoir rêvé. Il se fit dans Paris un silence de neige, un réveil de novembre à 9h battant, quand Éloi repartit rejoindre le cortège. Nesval meurt au printemps. C'est de sa belle mort.
France Culture, une voix sans mesure, Louis Aragon, 1897-1982.
Dans ce siècle où nous sommes, cela ne sert à rien. Il meurt l'enfant terrible au jour des primevères. Pâques éperdument auront sonné pour lui. Ses paupières fermées, ses doigts se sont rouverts, ses derniers vers ont lui. Dans le monde angésine, inhumain, pathétique, il tourne au firmament à jamais ses yeux bleus, visage émerveillé des peintures gothiques, soleil de quand il pleut. Il est entré vivant dans les cieux du folklore, y chantant sa mère et la paix pareillement. Il nous montre demain comme une bague d'or dans la main d'un amant. Nesval, de qui le nom notre lèvre façonne, Nesval, attends un peu, j'arrive à tes côtés. Du jour qui fut si beau, déjà le soir frissonne, et d'autres vont chanter.
Blanche est le nom de la femme qui est au milieu de ce livre. L'oubli, parce que c'est le thème principal du livre, où l'homme que cette femme concerne cherche à se ressouvenir de cette femme qui l'a quitté il y a de cela, enfin en 1948 environ, et à comprendre en elle ce qui peut-être a fait que cette femme l'a quitté. L'oubli, linguistiquement, a été défini comme tel par un homme comme Darmstadter vers 1880 et également par Saussure en 1916 comme la caractéristique des changements de sens. Les mots ne signifient pas toujours la même chose à travers les années et les siècles, mais les changements de sens sont marqués par un oubli, l'oubli du sens premier que les mots avaient. Par exemple, quand j'étais enfant, on disait Une voiture, personne ne voyait autre chose qu'une voiture à cheval. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit « Je n'ai pas su où placer ma voiture devant votre maison », il n'y a plus de chevaux. Mais on ne les nomme pas. On a oublié les chevaux. C'est maintenant une automobile. Il y a un moment entre le moment où le sens premier occupe le mot et le moment où c'est le sens second, il y a un moment de vague, de vide entre les deux. Ce moment est le moment romanesque. C'est ma conception du roman.
Mais vous alors, Daniel Bougnou, comment avez-vous pris contact avec l'œuvre d'Aragon ?
Moi, je suis entré par Blanche ou l'oubli, il y a très longtemps. Ça a été une révélation éblouissante, Blanche ou l'oubli.
Un des tout derniers romans d'Aragon.
C'est en 67, oui. Où il envisage la mort d'Elsa, ou du moins la séparation d'avec elle. Et c'est le monologue d'un veuf ou d'un homme abandonné qui essaye de comprendre pourquoi sa femme l'a quitté.
Mais d'ailleurs, il y a une drôle de lettre, je crois.
Oui, au chapitre de la séparation, il y a effectivement... À la toute fin de Blanche ou l'oubli, il y a mention d'une lettre qui bien sûr existait et que Michel Appelmüller a retrouvée dans l'appartement d'Aragon, dans ce petit coffret métallique sur le guéridon du salon. Une lettre par laquelle Elsa, avec les jambages bleus du malheur, comme dit magnifiquement le narrateur de Blanche ou l'oubli, ou Blanche donc dans la fiction qui est Elsa dans la réalité, donc parlons d'Elsa et laissons Blanche, Elsa a signifié à Aragon... son exaspération de vivre seul, le temps qu'il s'isolait pour écrire les merveilleux poèmes à Elsa. Alors, il est difficile de dater cette lettre, n'est-ce pas ? On peut penser qu'elle date de 1966.
Lettre d'Elsa Triolet à Louis Aragon. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Dans ta course, il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas, ni te suivre, quel que soit l'ouvrage, aussi bien couper des branches sèches. Il ne faut surtout pas s'aviser de faire quoi que ce soit avec toi, ensemble. Cette dernière entreprise est bien ce que j'ai vécu de plus affreusement triste. Tu es là à trembler devant mes initiatives. Jamais tu ne discutes, tu ne fais que crier ou tu prends sur toi. Le plaisir normal de faire quelque chose ensemble, tu ne le connais pas. Un mot anodin à ce sujet et tu te mets à m'expliquer la montagne de choses que tu as à faire. Pourtant, il serait peut-être aussi urgent de parfois nous rencontrer. Il nous reste extrêmement peu de temps, et tu le sais mieux que quiconque. Mon Dieu, ce que la sérénité me manque. Toute une vie comme dans la voiture où je ne peux jamais te dire « Regarde !» puisque toujours tu lis ou tu écris, et qu'il ne faut pas te déranger. J'étouffe de toutes les choses pas dites, sans importance, mais qui aurait rendu la vie simple, sans interdit. Avoir constamment à tourner la langue cette fois avant d'oser dire quelque chose, de peur de provoquer un cyclone, et lorsque cela m'échappe, cela ne rate jamais, j'y ai droit. Je ne m'en dis pas, rien, ni ton temps, ni ton assistance. Ce que je ne supporte pas, c'est la manière dont tu te tiens sur la défensive. Les barbelés et les fossés. Ma peine te dérange. Il ne faut pas que j'aie mal, juste quand tu as tant à faire. Moi aussi, je prends sur moi. Et même, je ne fais que cela. À en éclater, à sauter au plafond. Même ma mort. C'est à toi que cela arriverait.
On n'écrit pas une œuvre pareille sans être un tyran épouvantable de sa propre vie et donc de la vie de ceux qui tiennent à la vôtre, n'est-ce pas ? On n'écrit pas une œuvre pareille sans tout sacrifier à cette œuvre, en effet, sans doute.
Ouais.
Donc Elsa fut sacrifiée à cette œuvre. Le paradoxe étant que Louis se claquemurait dans son bureau pour écrire des poèmes à Elsa, et que quand Elsa poussait la porte, Louis disait « Arrête, tu me déranges, ben, je t'écris un poème d'amour, attends la fin du poème.
Oui, » Fous-moi la paix, quoi.
Fous-moi la paix. Je t'écris, fous-moi la paix.
Je trouve, Charles Dobzinski, que l'histoire des lettres françaises mériterait d'être écrite. Il faut bien dire qu'elles étaient lues par tout le monde, y compris par les opposants au Parti communiste, et on s'y tenait informé chaque semaine de ce qui se passait d'important en peinture, en littérature, en cinéma, en poésie, etc.
Oui, c'est tout à fait exact. Et écoutez, pour confirmer ce que vous venez de dire, je voudrais simplement faire une citation, et je vous dirai après de qui elle est. Les lettres françaises, le seul journal qui manifeste la continuité, l'ouverture et la virulence de ce scandale, sans action de ce genre, on finirait souvent par penser qu'il ne se passe rien dans la culture de la société où nous travaillons. Ceci a été écrit par Philippe Solers. Justement, Philippe Solers, dont Aragon a fait l'éloge pour son premier livre « Une curieuse solitude », dans les lettres françaises, c'est significatif que pendant la période qui est venue après 1956, les lettres françaises n'ont cessé de pratiquer ce qu'on a appelé l'ouverture. Alors il faut vous dire d'abord que l'équipe des lettres françaises était une équipe très variée, qui comportait des gens venus d'horizons un peu divers. Il y avait parmi elles des communistes, dont j'étais, mais seulement une partie de la rédaction était membre du Parti communiste, d'autres ne l'étaient pas. En tout cas, cette équipe s'est soudée autour de grandes idées, et qui était celle de l'attention, comme je l'ai dit, que portait Aragon à tout le mouvement culturel, à tout ce qu'il y avait de nouveau dans la culture. Alors Aragon avait le souci premier que ce journal soit diffusé, soit un journal populaire. Il refusait absolument tout hermétisme, tout journalisme élitaire. Il était absolument opposé à cela. Bon, alors il fallait que ce journal ait une substance culturelle
très
riche, une très haute tenue, mais qu'il soit accessible à tous. Ça, il y tenait beaucoup et il a souvent fait des critiques et des reproches à ceux qui s'avisaient d'écrire dans un langage ésotérique. En tout cas, l'équipe des lettres, donc, qui a été très diversifiée, il y a eu à un moment donné, c'est un épisode assez amusant, il y a eu comme critique d'art dramatique Jacques Lanzmann pendant quelques temps. Il venait de publier un roman qu'Aragon avait apprécié et il lui a proposé d'y entrer et d'y exercer la critique dramatique, ce qui amusait beaucoup Lanzmann. Bon, pendant toute une période, il y a eu une chronique de télévision aux lettres françaises. Je crois que c'est un des premiers hebdomadaires qui a tenu à attacher de l'intérêt à la télévision. Et il y a eu une chronique de très grande qualité qui a été tenue par Jean-Pierre Chabrol, le romancier. La rubrique cinématographique, telle qu'elle existait quand je suis entré aux lettres, elle s'est très vite élargie. Il y avait Jean Thévenot, il y avait Henri Magnan, il y avait Simone Dubreuil qui venait du journal Libération. Je parle de l'ancien Libération, celui d'Emmanuel Dastier, pas celui d'aujourd'hui de Serge Julli. Très vite, cela s'est élargi. On a vu même collaborer des gens comme Jacques Doniol-Valcroze, ce qui paraît aujourd'hui surprenant, Anne-Philippe. La femme de Gérard Philippe. C'était un peu épisodique, mais ensuite on a vu aussi des gens comme Yvonne Babi, devenue par la suite directrice des pages culturelles dans Le Monde, Paul-Louis Tirard, et plus régulièrement ensuite Patrick Bureau, Marcel Martin, Gérard Langlois, Tristan Renaud, Michel Mardor, Raymond Bellour et Philippe Audiquet. Moi-même, j'y signais sous le pseudonyme de Michel Capdenac, et c'est après la mort de quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, d'un très grand critique et historien du film, Georges Sadoul, après sa mort en octobre 1967, que l'on m'a confié la responsabilité, disons, de la principale chronique du cinéma dans les lettres françaises.
Alors, 67, ça veut dire juste avant 68, voilà. Alors, les lettres françaises en 68, Charles Dobzinski, c'est particulièrement brillant.
C'est particulièrement brillant, c'est un très grand moment. Il y a deux choses qui entrent en conjonction. Il y a deux événements extraordinaires qui font en quelque sorte, comme on dit aujourd'hui, éclater les Français. Pas dans le sens d'une explosion, mais dans le sens d'un élargissement brillant de ses participations à la vie et à l'actualité. Il y a d'une part ce qu'on a appelé le printemps de Prague. C'est-à-dire que dès le départ, les lettres françaises, et avec une équipe soudée autour de la défense d'une nouvelle conception du socialisme telle qu'elle semblait pouvoir se mettre en place en Tchécoslovaquie. Les élèves français se sont battus pour cela, avec Dex, bien entendu, avec Aragon, hein, qui était un directeur. Il ne faut pas penser qu'Aragon voyait de loin son journal. Il était constamment sur place, il venait à l'imprimerie, il venait au marbre, il corrigeait les grandes morasses quand c'était le grand format, puis quand nous sommes passés en 1965 au format tabloïd, il venait toujours, il corrigeait même les A sur lesquels manquait un accent dans les capitales, il tenait à ce que cet accent soit mis par les typographes. Alors, il y a eu cet événement, le printemps de Prague, et puis naturellement le mai 68 à Paris.
Oui,
alors,
ça, je voudrais quand même signaler que ça vous vaudra en 69 d'être interdit en URSS. Hein. Les lettres françaises seront à ce moment-là rayées de la carte par le parti soviétique.
C'est exact. Les abonnements supprimés, la diffusion des lettres supprimées dans ce journal. Pourquoi ? Parce que pendant cette année, naturellement, il y a eu la condamnation catégorique de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie en août 1968. Et il y a eu une véritable campagne qui a été menée en faveur des dissidents, d'une part des Tchécoslovaques, mais aussi des Soviétiques. Il y a eu le grand article d'Elsa Triolet sur Sakharov, qui était totalement inconnu à cette époque-là en France. Enfin, pour revenir aux lettres françaises, en 1968, c'est un véritable tremblement de terre. Il y a le mai parisien sur lequel le journal prend position et se solidarise avec les étudiants révoltés. Et cela a valu à Aragon, il a eu le courage d'aller sur le boulevard Saint-Michel, mais devant la Sorbonne, de parler aux étudiants, et il s'est fait insulter, on l'a traité de, je crois que c'est Cohn-Bendit qui l'a traité de crapule stalinienne. Bon, il a tenu front, et il a réalisé un numéro spécial, mémorable, et je crois historique, des lettres françaises, qui rendait compte de ces événements, et qui montrait la solidarité de la classe intellectuelle, des écrivains, en tout cas, et des artistes, avec les étudiants en révolte.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée, Charles Obzinski, disons, des signatures, au fond, qu'on pouvait trouver dans les lettres françaises, disons, dans cette année 68, par exemple?
Oui, écoutez, au cours de son histoire, les lettres françaises ont eu le souci de rassembler beaucoup de noms, beaucoup de personnalités du monde intellectuel. Mais je crois que dans les années 60 et 68, en particulier, il y avait le souci de tenir compte des grands mouvements d'idées qui se faisaient en France. En particulier, il y a eu un effort considérable pour faire connaître et pour analyser le structuralisme, la psychanalyse, les sciences humaines. Je vais citer quelques-uns des noms, par exemple, que l'on pouvait trouver comme signature d'articles concernant la science. François Jacob, Roman Jacobson, Louis Althusser, Michel Foucault, Tsvetan Todorov, Pierre Francastel, Noam Chomsky, Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Benveniste, etc., etc. Vous voyez, ce sont des noms brillants. En matière de littérature, bon, on a vu aussi des signatures. Parfois, on a dit qu'il y avait une certaine inimitié entre Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et Aragon. C'est vrai, je n'entre pas dans les détails, ça fait partie de l'histoire. Bon. Mais il n'empêche qu'on a trouvé la signature de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir dans les lettres françaises. On y trouvait celle de Philippe Soupeau, de Michel Léris, de Pierre Macorlan, de Mandiargue, Alain Bosquet, Robert Sabatier, Robert Merle, Pierre Boulle, Jules Roy, Françoise Sagan, Aimé Césaire, Raymond Queneau, Franz-André Burguet, ce qui est plus curieux, Armand Lanoux, Hervé Bazin, Jean-Carl, mais aussi toute la nouvelle génération et l'avant-garde, Jean-Pierre Faye, Michel Butor, Philippe Solers, Marcelin Plenet, Denis Roche, Jean Rista, Jean Starobinski, Pierre Guyotat, Michel Deguy, Jacques Roubaud, Jacques Henrique, Patrick Modiano. Je n'en cite que quelques-uns pour vous donner une idée du rôle extraordinairement de transmission et de courroie de transmission de la pensée en mouvement, de la pensée en action, de tous les phénomènes de la vie culturelle dans lesquels les lettres françaises ont joué un rôle capital. Et qui, malheureusement, aujourd'hui, dans le vide un peu que nous vivons, manque gravement.
Oui, tout à fait. Alors, 72, c'est la fin des lettres françaises. C'est le fameux texte d'Aragon, La valse des adieux.
C'est un grand drame. Nous pressentions ces événements et la fin du journal sans y croire vraiment. Que s'est-il passé ? Il y a la mort d'Elsa en 1970. Et nous avons vu un Aragon partagé entre la douleur, à moitié brisé comme homme, et aussi se cramponnant et s'accrochant avec une sorte d'énergie du désespoir à la création. C'est à ce moment-là qu'il a publié Henri Matisse roman, qu'il a préparé son nouveau et dernier grand roman, théâtre roman, qu'il a écrit des poèmes. Enfin, c'était une époque un peu étrange et où la bataille continuait avec persévérance et avec acuité contre ce que nous appelions les déformations du socialisme.
Ma vie actuelle, je voudrais en parler avec décence et ce n'est pas très simple. Il y a toujours une certaine impudeur à parler de son chagrin. Enfin, tout le monde sait que je n'ai pas lieu d'être très heureux, qu'au mois de juin dernier s'est achevé ce qui a pu être le bonheur de ma vie. Depuis, j'ai eu beaucoup de peine à m'en tirer. J'ai d'abord été très solitaire, j'ai même été excédé par la présence des gens de bonne volonté qui restaient auprès de moi. Et puis, les choses ont un peu changé. Pendant des mois, j'ai pas vraiment dormi. Parce que toutes les nuits, il me revenait trop d'images. Je cherchais près de moi quelqu'un qui n'y était pas. Alors, j'ai commencé à faire ce que tout le monde trouve parfaitement déraisonnable, c'est-à-dire à ne pas me coucher, me coucher si peu, tard, à faire venir des gens chez moi ou aller chez eux. Et puis, il y avait toujours le moment où on se séparait, quand je restais seul dans l'appartement que j'ai, qui n'est pas petit, mais qui est maintenant immense, du fait de la solitude. Sur le plan du travail, c'est le complet désordre et l'absolu désarroi.
Jean Rista.
Je n'ai jamais vu de livre sur le bureau d'Aragon, sauf lorsqu'il décidait de rendre hommage à un poète ou à un écrivain. Ainsi, un jour, il a décidé de faire un hommage à Paul Claudel et il a mis toutes les éditions originales ou non qu'il avait de l'œuvre de Claudel et il a invité la famille à venir le voir à cette occasion rue de Varennes. Mais la bibliothèque d'Aragon est une bibliothèque très riche en auteurs anglais.
Mais il avait lui-même traduit Lewis Carroll quand il était jeune, hein, La chasse au snark, je crois.
Oui, La chasse au snark. Mais il a non seulement traduit Lewis Carroll, mais il aimait beaucoup Shelley, il a traduit Shelley.
Lord Byron, évidemment.
Et j'ai ici les œuvres complètes de Lord Byron, annotées par Aragon. Il y a les auteurs anglais, il y a surtout le théâtre élisabétain, mais c'est une immense bibliothèque. Aragon était un homme qui aimait lire. Tout le monde le sait, lire. Je ne parle pas de la lecture qu'il avait, lui, privément, de ses livres, mais lire à ses interlocuteurs, à ses invités.
Oui, des lectures à haute voix.
Des lectures à haute voix. Bien sûr. Donc, il lisait aussi bien le texte qu'il était en train d'écrire que un texte d'autrefois.
C'est-à-dire que les livres étaient vivants, hein, on les sortait de la bibliothèque,
voilà.
On les faisait
ou bien,
vivre. On les...
Un jour, il a sorti une œuvre de Marlowe, et une nuit, il m'a lu entièrement une pièce de théâtre. Une autre fois, il m'a dit, tu connais Namouna de Musset? J'avoue que moi, Musset, ça me paraissait un peu ringard, et je faisais un peu la grimace, mais il a fait celui qui ne voyait rien, il a sorti le volume de sa bibliothèque, que j'ai gardé d'ailleurs en souvenir de cette soirée, et il m'a lu Namouna en entier. J'ai trouvé ça tout de même assez beau. Et je le lui ai dit. Et aussi sec, si vous me permettez l'expression, il a recommencé. Et donc j'ai eu droit à deux lectures intégrales de Namouna. À la fois, il lit ses propres textes, mais pourquoi les lit-il? Nous sommes quand même quelques-uns à avoir subi ou connu cette expérience. Il lit ses propres textes parce que c'était aussi une façon pour lui de se relire, c'est clair.
Oui, et de les éprouver d'une certaine manière.
Voilà, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, éprouver le lecteur, éprouver le texte, et se rendre compte à quel moment il y a relâchement de l'attention. Et puis ensuite, il y a l'Aragon généreux, c'est-à-dire l'Aragon qui fait connaître d'autres textes.
Il lit naturellement beaucoup, et puis il se promène dans Paris. Est-ce qu'il dormait de temps en temps?
Alors voilà, vous avez raison.
Ça ne se comprend pas sinon.
Il y a quelques jours, on m'a demandé comment Aragon faisait. Bon, il écrivait tout le temps, oui, il écrivait tout le temps.
Il lisait tout le temps.
Il lisait tout le temps. La clé, s'il y a une clé, mais en tout cas, à mon avis, la clé, c'est qu'il dormait peu. Il disait, je dormais quoi à cette époque jeune, mais âgé, c'était la même chose. 4 heures, 5 heures par nuit, mais il ajoute, en parlant de lui-même, le vieil Aragon, parlant du jeune homme qui ne dormait pas, dit, j'étais beau comme l'insomnie.
Je l'ai rencontré vraiment, en personne, très peu souvent.
Jean Toussaint de Santy.
Sa parole m'a toujours tenu à distance. Je sentais, maintenant que j'y réfléchis, qu'il y avait dans son abord quelque chose d'énigmatique. Et aujourd'hui, je m'interroge et je me dis, qu'à vrai dire, il passait pour un dirigeant politique. Il exerçait la fonction d'un dirigeant politique. Il agissait comme un dirigeant politique. Il décidait, en partie seulement, comme un dirigeant politique. Et je m'interroge aujourd'hui sur cet abord énigmatique qu'avait sa parole, cette mise à distance. Et je me dis ceci, c'est peut-être faux, je me dis, cet homme ne percevait pas ce que nous appelons le réel à la façon dont nous le percevons. Je crois qu'il le percevait dans le champ de sa créativité langagière. C'est ce qui fait que lorsqu'il adressait la parole, moi, j'avais l'impression qu'il y avait derrière cette parole tout un arrière-monde, non pas une arrière-pensée, mais un arrière-monde dont il était porteur et qu'il animait et qui était son monde. C'était le monde de sa créativité politique et il percevait les choses, il percevait les autres par l'intermédiaire de cet arrière-monde de créativité, de ce trop-plein de langues dont il était le maître et le porteur. Donc il ne percevait pas les choses comme tout. C'est ce qui fait que nous disons maintenant, bon, c'était un homme double, c'était un homme à masque, c'était un homme qui exerçait telle ou telle activité sous telle ou telle forme, qui adhérait sans trop y adhérer. Il adhérait, mais à quoi? Il adhérait à l'univers de sa créativité. C'était ça qu'il était. Et c'est ce qui apparaît dans le roman de La Mise à mort, où il fait éclater tous ses personnages. Il se montre dans une sorte de duplicité. Mais cette duplicité, ça n'est pas une duplicité fonctionnelle, c'est une manière d'être. C'est une manière d'être.
Vous voulez dire
c'était
que
ça qu'il était.
Il était seul, au fond, dans cet univers.
Absolument.
Et donc, du coup, est-ce que ça veut dire que pour lui, son engagement politique était un univers fictionnel?
Non, c'était un engagement transfiguré, pas fictionnel. Transfiguré dans sa création. C'est pourquoi il donnait l'impression de jouer des rôles, ce qui n'était pas le cas. Il ne jouait pas des rôles. Il était. Il était les rôles qu'il jouait. C'est très différent. Parce que pour lui, cette distinction qui nous paraît tout à fait familière entre l'imaginaire et le réel n'était pas, n'existait pas. Il n'y avait pas cette séparation. Pour lui, l'imaginaire a créé, l'univers poétique, l'univers de la création, qu'il s'agisse du roman ou qu'il s'agisse du poème, l'univers de la création était son mode d'accès à ce que nous appelons le réel, à ce que nous appelons l'histoire. C'est pourquoi on dit, voilà, il a changé, il n'est pas l'inaudit. Tantôt, il a pris un tel fougeron, après ça, il l'a renvoyé aux gémonies, tout ça. Mais dans la continuité de son univers propre, qui était un univers de créativité, tout cela se tenait. Tout cela se tenait.
Donc vous en faites un personnage d'une certaine manière très cohérent, du début à la fin pratiquement.
Cohérent dans
ça. Parce que son engagement avec le surréalisme, lu à travers ce que vous dites, est exactement du même ordre.
Du même ordre, il est resté. Il est resté, de temps en temps, il se conduisait comme un surréaliste. Il ne se conduisait pas comme un surréaliste. Il l'était, c'était sa perception du réel. Il n'y avait pas la perception du réel, quand non, les gens ordinaires, il faut s'y résoudre, des poètes sont comme ça. Or, il était fondamentalement créatif et poète. Alors évidemment, on pourrait dire qu'il s'est égaré dans l'action politique. Non, il ne s'y est pas égaré. Il s'y est engagé en tant qu'il se découvrait lui-même comme force créative, comme force langagière. Il mettait tout en mots, spontanément. Le monde était pour lui dans la langue et dans les forces, dans les capacités de maîtrise de la langue, de déploiement de la langue, de trop-plein de la langue. Alors évidemment, le monde n'était pas exactement comme il était pour nous. Et alors sa parole me paraissait toujours mystérieuse. Toujours, il disait des choses banales, banales, mais derrière lesquelles je sentais une absence riche, qui n'était pas là, qui ne l'exprimait pas, mais qui cependant marquait la présence du mot même qu'il prononçait. Enfin, je n'ai jamais entendu prononcer un mot d'accueil. C'était toujours abrupt. Abrupt. Mais derrière, il y avait cet arrière-monde qui n'était pas livré, mais qui était là. C'est ainsi que je le vois. C'est ainsi que je l'admire. Il y a un ami qui nous a dit un jour, on lui a demandé, qu'est-ce que tu penses d'Aragon? C'était un dirigeant politique. Alors il a dit, tu sais, comme poète, je l'admire. Comme militant, je le respecte. Comme homme, je l'évite. Qu'est-ce qu'on évitait en lui? Le danger que porte la langue, c'est ça qu'on évitait. C'est très dangereux. C'est très dangereux de saisir le monde par l'intermédiaire des possibilités créatives du langage.
C'était un homme dangereux.
Un homme dangereux. Pour lui, et pour ceux qui étaient avec lui, un homme dangereux. Dangereux et malheureux.
Alors Olivier Barbaran, vous avez donc fait ce livre sur Aragon poète, donc Aragon, la mémoire et l'excès. Qu'est-ce qu'un jeune homme qui n'a pas été pris dans toutes ces histoires, évidemment, de guerre froide, de lutte entre deux blocs, peut dire du rapport que le poète Aragon entretenait au fond avec l'homme d'appareil Aragon? Quel effet ça vous fait, vu de loin, comme ça?
Vu de loin, l'un, dans mes pensées et dans mes préoccupations, a quasiment éclipsé l'autre. Je ne veux pas dire par là que je ne m'intéresse pas au très complexe problème d'Aragon militant, mais il est évident que je crois que le temps a joué pour le poète et contre l'homme d'appareil, et que c'est tant mieux. Si j'avais des choses à retenir pour moi, puisque c'est un peu ça votre question,
c'est une question subjective.
Il me semble qu'Aragon a trouver le moyen, et là encore il est très étonnant, d'être toujours, ou presque toujours libre dans son écriture, j'entends dans son écriture artistique, quand les prises de position et l'inscription dans l'appareil qui était le sien faisaient qu'il n'était pas du tout libre de ce qu'il pouvait dire comme intellectuel dans la cité. L'écriture, et notamment l'écriture poétique, lui ont donné les moyens d'une plus grande libération. Je crois qu'il y a vraiment un mouvement chez le vieil Aragon d'émancipation, d'ouverture jusqu'au domaine jusqu'ici réservé,
d'audace à dire les choses sur lui, sur sa vie, sur sa vie avec Elsa, sur sa propre sexualité, sur la propre complexité de sa personne, et aussi de dire les choses du point de vue politique. On a l'impression d'une sorte d'épanouissement réellement du vieil Aragon, comme si
qui
enfin...
retrouvait sa jeunesse, ou qu'il l'accomplissait.
En partie, oui, mais après tout, je crois que c'est Lamartine qui disait qu'une grande vie, c'était une jeunesse prolongée.
Jean Rista.
Causeur infatigable. Il est un des derniers à avoir, à posséder l'art de la conversation. Donc c'était ce causeur infatigable qui faisait résonner la mémoire du siècle. C'était ce rêveur dans Paris la nuit. C'était l'homme d'une curiosité inlassable. C'était l'homme du désir infini. Mon Dieu, cela ne s'éteint pas.
Maintenant que la jeunesse s'éteint au carreau bleui, maintenant que la jeunesse machinale m'a trahi, maintenant que la jeunesse, tu t'en souviens, souviens-t'en. Maintenant que la jeunesse chante à d'autres le printemps, maintenant que la jeunesse détourne ses yeux lilas.
Une voix sans mesure. Louis Aragon, 1897-1982.
Que la jeunesse.
Deuxième partie, je n'ai pas d'autre azur que ma fidélité, avec Dominique de Santi, Daniel Bounou, Charles Dobzinski, Jean Rista, Olivier Barbaran, Christian Jambet, Guy Scarpetta, Pierre Lartigue, Jean Toussaint de Santi, et la voix de Louis Aragon, archivée par Lina.
Maintenant que la jeunesse a fui voleur généreux, me laissant mon droit d'aînesse et l'argent de mes cheveux.
Texte lu par Maya Simon et Jean-Pierre Cassel.
Il fait beau à n'y pas croire. Il fait beau comme jamais. Quel temps sans mémoire. On ne sait plus comment voir ni se lever.
Merci au service de documentation de Radio France pour son cahier Aragon. Merci également à Sophie Joubert pour sa collaboration.
Contre nature, comme le ciel des peintures, comme l'oubli des tortures, il fait beau comme jamais.
Mixage Agnès Warnier. C'était une émission de Christine Goémé, mise en onde par Evelyne Frémy et Marie-Rose Desrouailles.
Un temps fort comme une femme, un temps à damner son âme. Il fait beau comme jamais, un temps à rire et courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire. Il fait beau comme jamais.
Cette émission a été diffusée la première fois le 17 août 1997 sur France Culture.